France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Inès Bouffartig, Sébastien, Sacha Mattei et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le dernier épisode de notre série consacrée à la reconstruction d'après-guerre. Aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, dans la ville de Mostar, une ville reconstruite, mais une mémoire en ruine.
Mon fils et moi, nous nous tenions par la main. Nous avons vu les obus passer à côté de nous et s'en aller détruire notre vieux pont. Nous pleurions et je lui ai dit « n'oublie jamais ça ».
J'ai l'impression qu'on revient lentement vers l'atmosphère d'avant la guerre. Je suis convaincu que la reconstruction du pont va renforcer le sentiment de l'unité de la population. Ici, nous sommes croates, musulmans et serbes, tous ensemble. On vit bien ensemble.
Super. Les armes se sont tues. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, la guerre n'est pas terminée. Il y a beaucoup de gamins nés en 2002, 2003 ou 2004 et ils détestent quelqu'un à cause d'une guerre où ils n'ont perdu strictement personne. Parfois, leur famille n'était même pas là et ils haïssent quelqu'un juste à cause de son nom ou de sa religion.
La ville de Mostar est reconstruite, mais ce n'est qu'un air qu'elle se donne. Dans cette ville de Bosnie-Herzégovine, ravagée par la double guerre commencée en 92 et qui dura deux longues années, les façades ont bien été ravalées, le patrimoine restauré, le vieux pont Stari Most qui gisait au fond de la rivière en 94 fut rebâti avec des financements européens, présenté comme le symbole de la réconciliation, c'était le grand mot. Mais la greffe n'a pas marché, le ciment a pris, mais il a figé avec lui les appartenances ethniques. En épigraphe de son livre « Mostar n'est pas une ville », Aline Kateu cite l'écrivain hongrois Imre Kertész dans « Le chercheur de traces ». Nulle fissure, nulle marge pour un quelconque reproche, tout s'affichait et pourtant tout résistait, tout était à sa place et pourtant tout était faux et déplacé. Car à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, la désintégration continue à bas bruit. Certes, il n'y a plus ces restes d'immeubles, paysages de montagnes de sable ou de poussière tassée. Quelques figuiers sauvages ont d'abord poussé entre les ruines et puis les pelleteux se sont mis en route, les murs se sont redressés, mais celles et ceux qui sont rentrés n'ont pas vraiment retrouvé leur foyer. Un foyer, c'est aussi la familiarité des visages, des sons et des voix. Tout ceci avait disparu pendant la guerre et la reconstruction ensuite a effacé une grande partie de la mémoire urbaine et sociale de Mostar. Comment les Mostariens ont-ils vu disparaître ce qu'ils aimaient, jusqu'à leurs cafés traditionnels qui ont laissé la place à des terrasses pour touristes, où la musique est à fond, le vacarme de la paix, comme vous dites Aline Kateu. Comment la reconstruction a-t-elle pu détruire des façons de vivre? Bonjour Aline Kateu.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, docteur en sciences politiques et sociales de l'Université de Louvain-la-Neuve, chercheuse rattachée à l'Université d'Ottawa et à la Faculté de sciences politiques de Sarajevo. Vous venez de publier « Mostar, ceci n'est pas une ville » aux éditions Actes Sud dans une toute nouvelle collection « Les routes de l'après » qui entend raconter ce qui se passe après une guerre, quand les armes se taisent et que les regards se détournent. Quelles sont les toutes premières images, Aline Kateu, que vous avez de Mostar, la première fois que vous vous y rendez? Vous arrivez par le nord de la ville, on est 5 ans après la fin de la guerre, en 99.
Alors, les toutes premières images que j'ai de Mostar, ce sont des ruines. Des ruines dans divers états, des bâtiments vides mais encore debout, sans toit. Des bâtiments qui semblent beaucoup plus fragiles, criblés de balles, qui semblent être comme une espèce de ce que je dis dans le livre, comme une espèce de tas de poussière agglomérée et solidifiée.
Vous avez toujours l'impression qu'elles vont s'envoler d'ailleurs avec un coup
coup de vent.
Oui, il y a cette idée de grande fragilité. La guerre est partout sur les façades, et puis il y a un grand désordre. La personne que j'accompagne dans ce voyage qui revient à Mostar après pour la première fois après la guerre est perdue. Elle ne retrouve pas les rues, elle n'a plus de repères.
Le silence s'est fait dans votre voiture d'ailleurs 15 km avant votre arrivée à Mostar, quand vous êtes sorti du tunnel de Salakovats, à une quinzaine de kilomètres au nord de Mostar. Déjà, vous ne parlez plus du tout ni l'une ni l'autre.
Non, parce que vraiment, ce niveau de destruction, je ne l'avais vu nulle part ailleurs en Bosnie à ce moment-là. Pourtant, j'avais passé du temps à Sarajevo, j'avais passé du temps dans l'est de la Bosnie, dans la vallée de Srebrenica. Et pour moi, il pouvait pas y avoir vraiment grand-chose de pire que Srebrenica et Sarajevo. Je ne connaissais pas l'histoire de la guerre à Mostar, je savais seulement que le vieux pont avait été détruit, et je n'avais aucune notion de l'étendue de la dévastation, et de surtout ce que la population mostarienne avait subi pendant ces deux guerres.
Des destructions intentionnelles, comment pourrait-il en être autrement? De l'incendie de la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité, par exemple, il en a fallu de l'essence aux forces croates pour détruire un édifice pareil.
Oui, c'est tout de suite cette notion d'acharnement qui me frappe dans les ruines de l'ancienne ligne de front, sur le boulevard de la Révolution, et où je me demande pourquoi on a continué à tirer sur des immeubles vides. Stary Most, évidemment, et Sveta Trojica, la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité, où il a fallu s'y reprendre à deux fois pour en venir à bout. D'abord l'incendier et puis ensuite la dynamité. Et c'est tout de suite la question que je me pose, c'est en temps de guerre, on sait que l'essence coûte cher, les explosifs coûtent cher. Enfin, je veux dire, ce sont des moyens qui sont normalement mis au service de la guerre et des combats. Et c'est toute cette logistique déployée pour venir à bout de la magnificence, en fait, de cette cathédrale orthodoxe. Donc c'est d'abord l'acharnement à détruire les repères physiques de la ville qui me frappe.
Les gens vous racontent que l'incendie faisait un bruit atroce, que la cathédrale semblait gémir ou même crier quand elle a brûlé, alors que les forces croates, elles, quand elles venaient arrêter les civils chez eux, eh bien elles chantaient dans les rues. Et ça, c'est un souvenir glaçant que tous les habitants de Mostar vous racontent. Il faut rappeler rappeler le contexte de la guerre, ou plutôt des guerres qu'a connu la ville de Mostar. D'abord l'armée populaire yougoslave, appuyée de milices serbes, qui vient mater une ville considérée comme rebelle parce qu'elle avait manifesté pour la paix le 6 mars 92, 5 jours après l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, les forces ethno-nationalistes croates, déjà armées et entraînées, qui s'organisent pour combattre l'armée yougoslave. Mais ces forces croates ont un projet précis, prendre le contrôle de la ville. Commence donc cette campagne intense de bombardement de la partie est où se trouvent des milliers de bosniaques musulmans. Quand ces forces croates sont contraintes de négocier la fin des combats à Washington en mars 94, qu'est-ce que c'est que cette administration de l'Union européenne de Mostar, cette forme de tutelle sur la ville?
Cette forme de tutelle sur la ville, elle annonce finalement la tutelle que la Bosnie-Herzégovine subira plus tard après les accords de Dayton avec l'imposition d'un haut représentant. Mostar est la seule ville de Bosnie-Herzégovine qui était mise sous tutelle directe de l'Union européenne, qui avait un représentant spécial en ville, qui était en charge de sa reconstruction. Du coup, cette reconstruction, ce qui est l'objectif numéro un, parce que Mostar est la première ville où les combats s'arrêtent en Bosnie-Herzégovine, et il faut qu'elle donne l'exemple. Il faut qu'on puisse prouver que ça marche, cette paix, cette réconciliation dont on donne jamais de définition et à laquelle on n'assigne jamais aucun autre but que la stabilité et la sécurité. Et l'Union européenne prend en main cette reconstruction en se préoccupant d'abord de sa visibilité plutôt que des réels besoins de la population. Et du coup, on va, comme on va le voir dans le restant de la Bosnie-Herzégovine également, s'attacher d'abord au patrimoine, à l'héritage du patrimoine, et notamment le patrimoine ottoman, donc la vieille ville, le vieux pont évidemment, qui est présenté aussi comme le patrimoine des victimes, puisque c'est la partie est, principalement bosniaque musulmane, qui a été assiégée et qui a souffert, et ce sont les bosniaques musulmans qui ont été arrêtés, torturés et mis dans des camps de concentration qui sont tenus par le Conseil de défense croate dans la périphérie de Mostar. Et donc, on ne se préoccupe plus des logements, des infrastructures, il faut absolument que ça brille et que on fasse rentrer cette ville dans le projet de l'Union européenne, qui est une ville dévouée au tourisme, puisque finalement, quelle meilleure industrie que le tourisme pour en faire une place sûre.
Et quoi de mieux qu'un pont pour symboliser cette réconciliation ?
The methodical shelling of this bridge symbolized something far wider.
Le bombardement méthodique de ce pont symbolisait bien plus que la simple destruction d'un grand monument, aussi mondialement célèbre fut-il. Il représentait aussi la destruction d'éléments profondément humains, avant tout celle des communautés florissantes et multiethniques qui avaient autrefois fait la renommée de la Bosnie-Herzégovine. Sa reconstruction aujourd'hui symbolise également les progrès extraordinaires, presque miraculeux, que la Bosnie-Herzégovine a accomplis pour retisser les liens entre des communautés récemment si déchirées.
Alors il y a les mots et les images de ce discours de Paddy Ashdown, qui est donc à l'époque le haut représentant des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine. On est le 23 juillet 2004, l'inauguration du vieux pont de Mostar, le nouveau vieux pont en quelque sorte. Mais il y a ce qu'on ne voit pas, Aline Kateu.
Oui, et la réapparition du vieux pont et de ce nouveau vieux pont, comme le nomment les Mostariens, cette cérémonie est complètement sidérante. Moi, je suis en ville ce mois de juillet 2004. Le pont est terminé depuis des lustres et personne n'a le droit de le traverser. Il est gardé par des policiers, parfois avec des chiens. Donc les Mostariens n'ont pas le droit de se ressaisir de ce vieux pont avant la cérémonie d'inauguration.
Il faut pas le salir, en quelque sorte.
C'est un petit peu ça, chaussures. Et puis surtout, on arrive, alors comme tous les étés, il fait une chaleur de bête, la ville est quadrillée, donc il y a des hélicoptères, il y a des forces de sécurité, parce qu'il y a tous ces hauts dignitaires internationaux qui vont venir dans la vieille ville, donc ça va de l'inévitable Banque mondiale à tous les financeurs de la reconstruction, des ambassadeurs, Ashdown, etc., etc., et la vieille ville est vide. Elle est vraiment transformée en décor. C'est ce qu'on voit. La cérémonie est en ligne, hein, sur le net, on peut la voir. Et c'est complètement sidérant. C'est-à-dire que la vieille ville est vide. Et elle est vide pourquoi ? Parce que les Mostariens n'ont pas le droit d'y être. Ils sont relégués à quelques centaines de mètres au nord, place Moussala, sur laquelle est tendu littéralement, hein, un espèce de vieux bout de tissu sur laquelle ils peuvent suivre cette cérémonie. À distance.
Un écran de fortune mal installé.
Oui, et du coup, il faut endurer ces étrangers, il faut endurer ces ethno-nationalistes aussi, qui sont eux invités. Il faut endurer une cérémonie d'inauguration très étrange où Mostar est complètement absente. Il n'y a pas de référence à la ville, ni à ses poètes, ni voilà. C'est une espèce de cérémonie orientalisante qui correspond plus à une vue occidentale de ce qu'est ce patrimoine mostarien qu'à la réalité. D'ailleurs, ce n'est plus un patrimoine mostarien, finalement, à cette époque-là. C'est vraiment un patrimoine ottoman auquel l'UNESCO dit que ce sont surtout les bosniaques musulmans qui sont attachés. Donc, on balaye dans le même temps l'identité mostarienne du vieux pont, et il faut attendre une éternité avant que les Mostariens aient le droit de traverser la Neretva sur leur pont.
La rivière, la Neretva, cette métaphore du pont réconciliateur qui va recoudre la ville, mais réconcilier qui avec qui en l'occurrence ?
Alors c'est toute la question, c'est-à-dire que le discours sur le pont réconciliateur est né dès le début en fait de l'entreprise de reconstruction du pont dès 94, c'est vraiment cette métaphore, hein, qu'on fait tout le temps, les ponts des Balkans censés relier les communautés. En réalité, c'est ce que je dis toujours, un pont c'est un pont, enfin je veux dire c'est une infrastructure, il a pas d'autre fonction que de faire circuler les gens, et en l'occurrence à Mostar, Mostar, il relie un bout de quartier bosniaque musulman à un autre bout de quartier bosniaque musulman. C'est la vieille ville ottomane.
Il relie l'est à l'est, quoi.
Il relie l'est à l'est.
Les fractures sont plus est-ouest.
Oui, et la vraie ligne de division, si on peut encore l'appeler comme ça, c'est l'ancienne ligne de front, qui est le boulevard de la Révolution, qui est quelques centaines de mètres un petit peu plus à l'ouest. Mais au fil des discours, en fait, sur la réconciliation, dont on ne sait toujours pas qui doit se réconcilier avec qui, comment, pourquoi. Et comme le disent très justement les Mostariens, moi je me suis disputée avec personne, et puis c'est un mot qui n'est employé que par les étrangers, personne ne parle de réconciliation, ne prononce ce mot de pomirenje en bosnien. Finalement, on ne sait pas, voilà, personne ne sait à quoi correspond ce projet, si ce n'est que au fil du temps, on fait de la rivière Neretva la ligne réelle de division de la ville, et ça renforce ce rôle du vieux pont qui serait là en quelque sorte pour recoudre cette pauvre Mostar.
Et à part le vieux pont, est-ce qu'au fur et à mesure de vos premiers séjours à Mostar et de vos balades, est-ce que pour parler d'abord seulement des pierres, vous voyez la ville se reconstruire peu à peu, les ruines être déblayées et quelque chose réapparaître à la place de ce qui fut ?
Oui, et c'est très... Alors la toute première reconstruction que je vois est complètement pétrifiante, puisque j'habite dans le quartier de Tsernitsa, qui est au bord de la Neretva, sur la rive droite de la Neretva, pas très très loin du vieux pont, mais en dehors de la vieille ville. C'est un quartier qui a été très touché par les combats. La maison qu'on habite est elle-même en ruine. Le rez-de-chaussée, en fait, est rendu habitable. Donc on est quand même dans un quartier assez désolé, mais très chaleureux. Et dans la rue, on voit réapparaître une maison. Alors je n'ai aucune idée de ce à quoi elle ressemblait avant. On voit se reconstruire une chose dont on se demande de semaine en semaine où ça va s'arrêter, déjà parce qu'elle est gigantesque, elle dépasse toutes les autres, elle ne correspond en rien à l'architecture locale, ni ottomane, ni austro-hongroise, ni aux proportions en fait du quartier. Elle a une espèce de façade d'un seul coup vert pomme. Et elle est entourée de marbre et de choses extrêmement kitsch. Nous, on l'appelle le temple chinois parce qu'elle, c'est un petit peu à ça, en fait, qu'elle ressemble. Et on m'indique tout de suite que cette famille qui reconstruit, si elle reconstruit, c'est qu'elle a profité de la guerre et qu'elle a l'argent pour le faire. Et on assiste à Mostar tout d'abord à toute une série de reconstructions sauvages, sans permis, illégales, sans tenir compte de ce qu'il y a devant, derrière, des proportions préalables. Là où je trouve que, par exemple, à Sarajevo, alors certainement les Sarajeviens me diraient non, pas du tout, mais j'ai quand même moins le sentiment d'un paysage général de la ville, quand on regarde d'un petit peu loin, bouleversé, que à Mostar, où on ne tient compte de rien et certainement pas de ce qui était avant. Mais je ne vois pas d'infrastructures se reconstruire, je ne vois pas de grands bâtiments, par exemple sur la moitié de la ligne de front l'ancienne ligne de front est encore en ruine. J'ai l'impression de quelque chose, et qui se confirme plus tard, de complètement désordonné et non coordonné, surtout par un plan d'urbanisme quelconque.
Quelque chose de non coordonné et de très lent. Et est-ce que cette lenteur à reconstruire la municipalité tenue par l'Alliance démocratique croate, est-ce qu'il y a un quelconque intérêt, parce que vous posez la question dans votre livre, à qui profitent les ruines ?
Oui, les ruines profitent toujours à quelqu'un. C'est ce que vous dites aussi depuis le début de cette série sur les reconstructions dans Culture Monde cette semaine. Quand il y a des ruines, il y a du profit à faire pour quelqu'un quelque part. En l'occurrence, il y a toujours une question de spéculation immobilière et il y a toujours aussi une question de marqueur émotionnel, c'est-à-dire que les ruines servent à maintenir la population dans un état d'esprit où la guerre est récente, voyez, comme si il y avait quelque chose de très récent, comme si elle pouvait revenir.
Rappelez-vous l'agression que vous avez subie, rappelez-vous cette agression.
Elle a vraiment une fonction d'humiliation et de rappeler constamment aussi aux Mostariens de qui a le pouvoir de décider ce qu'on investit et où on l'investit. Or, Mostar Est, aujourd'hui, la partie Est, de la ville, puisque la ville est réunifiée depuis 2004, il n'y a plus de Mostar Est ou de Mostar Ouest, mais la partie Est de la ville est toujours partiellement en ruine. ruines, avec des ruines si impressionnantes qu'elles occupent vraiment, qu'elles imposent un silence. Elles imposent un écho, c'est des zones sauvages aussi où pousse la végétation, ce sont des zones dangereuses puisqu'elles s'effondrent régulièrement sur des passants et tuent encore. Et elles maintiennent les gens dans cet état de précarité depuis 30 ans. Et puis elles rappellent aussi toutes les fonctions sociales de ces bâtiments qui ont disparu avec leur destruction.
Vous baladez à la fois au départ surtout dans les quartiers est de la ville de Mostar, vous n'aimez pas trop vous balader à l'ouest et puis finalement vous allez quand même voir à quoi ça ressemble et vous vous rendez compte à quel point l'ouest est beaucoup plus agréable, ombragé, spacieux, avec de petites maisons cachées derrière de grandes portes cochères, des petites cours fleuries. Il y a de l'ombre parce que les arbres n'ont pas brûlé, les maisons ou commerces n'ont pas été détruits mais abandonnés. Et vous, les habitants de Mostar, à l'époque Mostar Est, vous disent, nous, les habitants de l'Est, pour l'administration de la ville, en tout cas l'administration croate de la ville, on est une meute. Ce mot en serbo-croate, c'est...
Rulia, c'est vraiment la meute, le groupe de vagabonds sauvages, sales, indistincts, la meute. Vraiment, et c'est une expression qui revient assez régulièrement par rapport à la population et puis aussi cette population qui se confond justement avec Mostar Est par l'administration ethno-nationaliste croate, mais aussi l'administration ethno-nationaliste bosniaque-musulmane qui a aussi intérêt à continuer à maintenir ces tensions, ces ressentiments, etc., que l'est de la ville n'est toujours pas reconstruit, ce serait de la faute des habitants, en fait. Hein, on retrouve ça dans les discours ethno-nationalistes croates qui montrent un peu du doigt en disant « Regardez, ils ont toujours pas, c'est toujours sale. » Et puis surtout, l'urbanisme de l'est de la ville est très différent de l'urbanisme de l'ouest, puisque, et ça c'est dû à l'histoire de l'histoire urbaine, en fait, de la ville, c'est-à-dire que l'est est coincé entre la Neretva et une colline. Donc le plan urbain est très serré, c'est un petit peu le bazar dans les ruelles qui s'enchevêtrent et qui se développent pas du tout selon le même plan urbain de l'ouest qui lui se construit pendant l'occupation austro-hongroise à partir de 1878 et qui est beaucoup plus avec des rues beaucoup plus larges. Et on se sert de cette différence de plan urbain pour, encore une fois, hein, entre guillemets, orientaliser cet est qui est sale, en ruine et habité par une meute.
L'argent de la reconstruction, par ailleurs, on le sait aujourd'hui, a été grandement détourné au profit de cette alliance démocratique croate qui, par ailleurs, s'évertue à écrire une autre histoire de Mostar, notamment en saccageant et en vandalisant ce qui restait de la mémoire yougoslave.
En ce moment, on est en train de nettoyer les graffitis et les symboles fascistes sur la roche et sur les pierres tombales du monument.
Bah, je pense que c'est très important d'enlever ces signes fascistes. Je suis né en 85, vous savez, j'étais qu'un enfant à l'époque de la Yougoslavie. Et tout ce que je sais de cette période, c'est grâce aux monuments. On a besoin de valoriser et de protéger ce genre de monuments dans toute la Yougoslavie et à Mostar aussi.
Extrait d'un reportage de RFI au cimetière des partisans, cet espace enfoui au cœur de l'ouest de Mostar, Aline Kate, une oasis sans symbole religieux ou politique, écrivez-vous, la pièce maîtresse du patrimoine antifasciste de Mostar, mais que vous voyez dépérir.
Oui, alors le cimetière des partisans, c'est 5 hectares, hein, c'est immense et fait partie de ce dispositif mémoriel yougoslave qui se déploie pratiquement tout de suite après la Seconde Guerre mondiale et qui, à partir des années 60, prend une forme de parc. C'est-à-dire que ce ne sont plus seulement des monuments dans l'espace urbain, mais ça peut être un petit peu à la périphérie et ça permet d'accueillir des classes, d'organiser des cérémonies aussi, parce que ça fait aussi partie des politiques mémorielles yougoslaves. Et c'est vraiment une des pièces maîtresses qui participe au prestige de la ville. avec le vieux pont, avec la cathédrale de la Sainte Trinité. C'est ce que j'explique toujours, que quand on trouve des cartes postales d'avant-guerre en fait de Mostar, il y a trois choses et ce sont Stari Most, Sveta Trojica et Partizansko groblje. Donc c'est vraiment ce cimetière des partisans, la Sainte Trinité et Mostar. Et ce cimetière des partisans, après la guerre, il ne correspond plus à l'ambiance politique locale. Donc ethno-nationaliste croate, puisque le cimetière est parti situé dans la partie sous son contrôle, et rappelle en fait cette unité et cette fraternité yougoslave, hein, qui était la devise de la Yougoslavie, où sont enterrés plusieurs centaines de partisans de Mostar qui sont morts dans différentes batailles. Donc c'est aussi un ossuaire. Donc c'est un vrai cimetière, puisque ça aussi, dans les discours nationalistes déployés par les Croates, par les nationalistes croates, disent que en fait, bon, c'est un monument, personne n'est enterré là. Mais non, enfin, on a les noms, c'est documenté dans les archives de Bogdan Bogdanovitch, son architecte, et il est attaqué dès 92 par une petite bombe qui détonne pendant les manifestations contre la guerre en mars. Et puis, pendant la guerre, il sert de poubelle, hein, de dépotoir. On veut en finir avec ce passé commun et cette question de l'unité. Et après la guerre, il est constamment défiguré par des croix gammées, par des insultes à l'encontre du maréchal Tito, mais aussi avec la réapparition des symboles fascistes croates de la Seconde Guerre mondiale, des oustachis. Et puis la célébration du 14 février, qui est la date de la libération de Mostar, qui est commémorée tous les ans avec des délégations, des associations antifascistes et des vétérans qui viennent déposer des fleurs au cimetière des partisans. Ces cérémonies qui ont été et qui continuent parfois d'être encore attaquées aujourd'hui. Et finalement, ce cimetière des partisans devient un enjeu, entre différentes force politique qui l'utilise et le détourne de sa fonction première, que ce soit les ethno-nationalistes croates qui voudraient le raser pour en faire on ne sait pas trop quoi, avec cet argument que cette terre appartenait à l'Église catholique avant d'être saisie par les communistes, et puis par les ethno-nationalistes bosniaques musulmans, que finalement cette tension permanente arrange pour pouvoir continuer à pointer l'opposant du doigt.
Même si tout est très compliqué et l'ambiance politique du moment nous oblige de dire que vous citez par ailleurs Aline Cateux dans votre livre ces mémoires conflictuelles, le massacre aussi commis par des partisans en mai 45 contre des soldats oustachis, mais aussi des civils dans la ville de Blyborg à la frontière entre l'Autriche et la Slovénie. 60 à 80 000 personnes exécutées par les partisans. Leur mémoire n'a pas trouvé de place en Bosnie-Herzégovine, ne contribue donc pas à cette forme de réconciliation qui n'est restée qu'un slogan de la part de personnes qui décident un peu du destin du pays depuis Bruxelles ou ailleurs. Alors, le fait que les symboles de la ville, ce qui doit être construit, reconstruit ou pas, ait été décidé de l'extérieur, est-ce que au moins les Mostariens, dans leur pratique quotidienne de la ville, dans leur balade par exemple, est-ce que contribuent à réunifier cette ville?
Oui, la marche, les balades, puis c'est vraiment on le retrouve partout en Bosnie, mais je trouve que c'est vraiment très particulier à Mostar de se retrouver et de se dire on va marcher. Et donc on va marcher en ville. Alors j'avais un ami qui disait que c'était rendre hommage à la ville que de la parcourir, et que avant la guerre les Mostariens s'habillaient pour sortir, pour rendre hommage à leur ville. C'était vraiment un souvenir de sa part que j'aimais énormément. Mais oui, bien sûr, les déplacements et ces promenades contribuent à réunifier la ville et à retisser en fait des relations du quotidien. On le voit par exemple par le biais des mamans, hein, qui vont avec leurs enfants au parc Zrinjevac, qui est quand même pas mal à l'ouest de la ville. Dès qu'un espace public est rendu aux Mostariens, les Mostariens ne se préoccupent pas de savoir si c'est à l'est ou à l'ouest. S'ils vont pouvoir aller jouer au ballon dans un parc avec leurs enfants, ils ne se disent pas « je n'y vais pas parce que c'est de l'autre côté ». Ils vont avec leurs enfants jouer et leurs enfants ont quand même des contacts avec des enfants qui habitent dans d'autres parties de la ville. On est bien d'accord que ça reste relativement restreint, mais tout ça contribue à retisser des choses, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on rend si peu d'espace public aux Mostariens.
Et encore faut-il se faufiler à travers les touristes de plus en plus nombreux et nombreuses qui se filment, qui marchent en se filmant en train de chercher un petit café à Mostar.
It's going to be our first time trying Bosnian coffee. This lovely little café here, and we have gone for the Bosnian coffee, it costs 5 marks.
Mostar je uvijek bio turistički grad.
Mostar a toujours été une ville touristique. Non seulement depuis la guerre, mais aussi avant la guerre, le tourisme était présent à Mostar et la ville était toujours visitée. C'est important parce que c'est un grand moteur économique. Aujourd'hui, la ville de Mostar ne vit que du tourisme, alors qu'avant, c'était une ville à la fois industrielle et touristique.
Une ville industrielle, c'est vrai. D'ailleurs, j'en profite pour dire à Aline Kateux que vous citez aussi longuement le cas des anciens salariés d'Aluminil, l'un des plus gros employeurs de la ville avant la guerre. En 92, avec la guerre, l'usine a subi de gros dégâts. La production s'est arrêtée. Les ouvriers serbes, puis bosniaques musulmans ont été tour à tour chassés ou arrêtés, pour beaucoup envoyés vers les camps de concentration de l'Héliodrome, tenu par le Conseil de défense croate. Eux n'ont jamais été dédommagés d'ailleurs par tout ce qui s'est en suivi d'argent qui est arrivé de l'extérieur, des bailleurs internationaux, etc. Mais une ville touristique, alors dit cette dame, qui a plutôt intérêt à le dire puisqu'elle est gérante d'une agence touristique et d'un hôtel de Mostar. Est-ce que Mostar a toujours été une ville touristique ?
Mostar a toujours été une ville visitée. Mais ça a toujours été une ville de passage. C'est-à-dire que si vous discutez avec les Sarajeviens ou des gens qui viennent du Nord, c'est toujours la ville « Ah, on s'arrêtait quand on allait à la mer ». C'est-à-dire que Mostar était une ville de passage, jamais une destination. De toute façon, Mostar n'a pas les infrastructures pour accueillir la masse de gens qui traversent la ville chaque jour pendant la saison. Donc oui, Mostar a toujours été une ville visitée, puisqu'il y avait pas mal de choses à voir, comme on l'a évoqué précédemment avec le cimetière des partisans et Sveta Trojica, avec la Sainte Trinité, pardon, et le vieux pont et la vieille ville. Mais c'était surtout une ville industrielle et une ville ouvrière. Ça a toujours été une ville pauvre. Mostar n'a jamais été une ville riche. Et ce présent touristique vraiment, on pourrait dire, de masse, dépasse largement ce que la ville est capable d'accueillir correctement. Donc on a tous les étés des transformations d'espaces privés, d'espaces publics en espaces privés, où le moindre mètre carré est loué à l'heure pour garer sa voiture, où il n'y a pas le nombre de lits suffisant. Donc on a aussi vu l'arrivée malheureusement d'une plateforme de location d'appartements à laquelle j'ai pas du tout envie de faire de publicité, mais qui a dévasté complètement le marché du logement à Mostar, puisque c'est devenu pratiquement impossible de se loger entre avril et octobre, puisque ces appartements sont loués pour la saison. Que ça a fait augmenter les loyers et qu'on a une multiplication de mini-hôtels, de mini-auberges et d'appartements en location pour accueillir ces gens pour lesquels la ville s'est complètement aussi reformulée, y compris dans ce qu'on sert dans les restaurants.
On sert quoi ? On sert plus les spécialités
Alors on sert un peu les spécialités traditionnelles dans quelques endroits dans la vieille ville, mais on n'a plus ces petites cantines où on pouvait s'asseoir vite fait, manger une soupe, boire un café, repartir. Tout ça, c'est terminé. J'ai un ami de la vieille ville qui disait aujourd'hui, c'est plus facile de trouver des toasts à l'avocat et un matcha que de boire un café bosnien.
Et même les boulettes de viande, une des spécialités locales, se sont turquicisées, paraît-il, pour faire plaisir aux touristes turcs. Ils sont très nombreux, majorité.
Oui, l'influence de la Turquie est très très grandissante et il y a de plus en plus de touristes turcs à Mostar et aussi à Sarajevo, où je trouve que... Alors, à Sarajevo, on fait pas mal de blagues. Enfin, mes amis sarajeviens en disant, ça y est, on est réoccupés par les Ottomans. Mais c'est vrai que la vieille ville de Sarajevo et la vieille ville de Mostar... ont de plus en plus... par exemple, c'est de plus en plus difficile de trouver des baklavas bosniens, ces petits gâteaux au miel et aux noix. Les recettes turques et bosniennes sont très différentes. Et on voit cette turcisation, en fait, du patrimoine et de l'espace touristique, qui ne correspond absolument à rien, en fait, en Bosnie-Herzégovine, ni à la culture bosnienne aujourd'hui.
Quand vous retournez à plusieurs reprises à Mostar, y compris en 2019, pour terminer votre thèse, en tout cas votre travail de terrain pour la thèse, vous sentez que la greffe n'a pas pris en quelque sorte, vous avez très très chaud, d'autant plus que les arbres ont été abattus, des rangées de platanes entières parfois parce qu'ils gênaient un chantier, alors chantier illégal la plupart du temps. La musique dans les cafés aussi, c'est sur les derniers chapitres de votre livre, c'est très présent, c'est obsédant, on ne peut plus entendre parler quasiment, mais est-ce que les Mostariens continuent à investir ces lieux-là, même s'ils ne sont plus faits pour eux, parce qu'apparemment la musique c'est pour les touristes, vous dit-on?
Alors en fait, cette musique, oui, elle est insupportablement forte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne s'entend pas, on ne peut pas se parler, voilà. Donc les tenants de café, des tenanciers de café disent souvent, mais c'est pour qu'on n'entende pas les discussions des voisins, enfin bref. Mais surtout dans la vieille ville, la musique, elle est faite pour attirer les clients, et du coup, on est en permanence dans ce brouhaha. Alors il y a des terrasses qui sont un peu éloignées de la vieille ville sur la rue Fejčeva qui sont un petit peu plus silencieuses mais qui ne sont pas des terrasses, c'est pas non plus les terrasses les plus agréables de la ville et c'est cette musique permanente, elle empêche de penser et elle empêche de communiquer et elle au final moi elle m'empêche d'être dehors parce que on ne trouve plus de et ça c'est venu vraiment avec le tourisme, on n'a plus d'espace, on a complètement perdu par exemple la communication avec la rivière, on n'entend plus la Neretva dans la vieille ville, on n'entend plus les oiseaux, les bords de la Neretva sont extrêmement verts, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de figuiers, donc il y a beaucoup d'oiseaux, et on est complètement coupé en fait de l'environnement de la ville, donc on déploie plein de stratégies en fait pour retrouver la ville et retrouver ces espaces où on a envie d'être.
Même les odeurs à Mostar ont changé, les odeurs d'acacia, de tilleul, des roses de mai qu'un habitant avait jadis en telle quantité dans son jardin qu'il faisait des bouquets pour tous ses voisins. C'est ce qu'il vous raconte, il n'y a plus du tout cette odeur de fleurs aujourd'hui à Mostar. Aline Kateu, vous observez non pas tant la transformation de la ville que sa disparition. Est-ce que ce mot de disparition, et je ne sais pas comment on le dit en serbo-croate, est-ce que ce mot est utilisé aussi par les habitants de Mostar?
Nestati, c'est le verbe disparaître. Oui, c'est les habitants de Mostar hein, qui m'ont bien sûr mis sur la route de la disparition. C'est-à-dire que, au niveau des sciences sociales et la façon dont la ville et notamment la Bosnie-Herzégovine a souvent été apportée, c'est tout le temps des questions de transformation urbaine. Voilà, on transforme, on transforme, on transforme. En réalité, les Mostariens, eux, me disaient que la ville avait disparu. Ils me disaient pas qu'elle s'était transformée. Du coup, moi, j'ai décidé de prendre leur constat. En fait, moi, je suis anthropologue. Mon travail, c'est de faire circuler les mots des autres. Ce n'est pas de me les réapproprier. Et du coup, je n'avais plus d'autre choix en relisant mes notes que de prendre cette question de la disparition au sérieux et en me disant, bon, ben, très bien, la ville a disparu. Donc, qu'a-t-il fallu qu'il se passe pour que les habitants de cette ville disent que leur ville a disparu? Et c'est finalement comme ça que ça a reconfiguré tout mon travail de recherche.
Et quelles questions aurait-il fallu se poser avant de reconstruire? Je vous poserai justement cette question-là après le focus dans un instant qui parlera de la Bibliothèque nationale de Sarajevo, autre lieu reconstruit et qui a totalement perdu son âme, pour le dire avec une formule un petit peu toute faite. En tout cas, quand vous voyez la ville disparaître de Mostar, c'est aussi le fait, on y a l'impression d'étouffer, vous disent ses habitants, au sens propre aussi, puisque la terre, l'eau et l'air sont aujourd'hui empoisonnés par le pyrhalène, ce composant chimique interdit en Europe depuis 1976, quasiment indestructible. Mais si les eaux sont infestées, c'est qu'on a très mal géré la décharge d'Ouborak au nord de Mostar. Aline Kateu, est-ce que vous avez cherché le dernier jardin?
Ouh. Oui, je l'ai cherché, je crois que en fait je veux continuer à le chercher. Je ne suis même pas sûre d'avoir envie de le trouver. C'est ce qui va aujourd'hui me permettre de continuer à retourner à Mostar et de réparer aussi un petit peu, si je puis dire, mes relations avec la ville qui ont été non pas endommagées, mais qui se sont beaucoup complexifié avec ce travail de recherche et tous ces constats très difficiles, parce qu'il a fallu dire au revoir à la ville que j'aimais, qui voilà, pour moi non plus n'existait pas. Donc oui, la recherche du dernier jardin, c'est le prochain chapitre.
Le groupe Zoster, créé à Mostar en l'an 2000, alors il aurait pu être invité lors de la cérémonie d'inauguration du Vieux Pont en 2004, mais rien à ce moment-là n'a fait référence à la ville, même pas un bout de texte, un poème, un auteur évoquant Mostar, ce qui ne manque pourtant pas, comme nous le rappelait tout à l'heure notre invitée Aline Cateux. À Mostar, la mémoire en ruine. C'est le dernier épisode de notre série sur les reconstructions d'après-guerre. À Mostar, on ne peut pas dire post-conflit, puisque d'une certaine façon, le conflit a toujours lieu, avec des forces nationales croate au pouvoir qui exacerbe les tensions communautaires, avec pour décor celui de la reconstruction imaginée de l'extérieur. À 120 km au nord-est de Mostar, à Sarajevo, la capitale de Bosnie-Herzégovine, des bâtiments qui témoignaient eux aussi d'une société plurielle ont perdu tout leur sens après avoir été reconstruits. C'est le cas de l'ancienne Bibliothèque nationale.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Détruite par les forces serbes au cours du siège imposé à Sarajevo entre 1992 et 1996, l'ancienne bibliothèque nationale et universitaire a été reconstruite à l'identique, mais vidée de toute la mémoire collective qu'elle gardait précieusement dans ses rayons avant la guerre. Bonjour Gruia Badescu.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Culture Monde. Bienvenue à vous. Vous étiez l'année dernière encore chercheur résident de l'Institut d'études avancées de Paris et vous êtes chercheur en histoire au Zukunftskollege de l'Université de Constance. En visant la Bibliothèque nationale de Sarajevo, Gruia Badescu, que veulent détruire à l'époque les milices serbes dans la nuit du 25 au 26 août 1992 ?
Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, les interprétations sur la destruction de cette bibliothèque sont diverses, mais en effet, on n'a pas accès à l'intention directe des armées serbes, mais on a des cadres d'interprétation. Et un récit dominant, c'est le récit de mémoricide ou de urbicide. Alors, de mémoricide parce que ces bibliothèques avaient aussi... tous les archives, voilà, historiques de la Bosnie-Herzégovine, et avec la destruction de ce bâtiment, on a aussi vu que tous les documents ont brûlé, et comme ça, on a perdu aussi toute l'histoire commune, voilà, la période médiévale et la période moderne de Bosnie-Herzégovine. Pour Bogdan Bogdanovic, qui a été mentionné avant comme l'architecte du cimetière de Mostar, il était aussi le maire de Belgrade, un grand architecte, qui a écrit sur la destruction de cette bibliothèque comme une urbicide, parce que c'est la vie en commun de Sarajevians qui a été détruite. Tout le témoignage, tous les documents et toute la signification de ce bâtiment ont été brûlés. Alors ça veut dire que c'est la fin de la ville. L'urbicide, c'est comme un acte intentionnel de détruire les villes.
Donc, toutes les preuves.
Sûr, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que les armées ont pensé, si c'était seulement un bâtiment ciblé pour son architecture qui était considérée comme une architecture orientale. Peut-être c'était aussi un symbole national des Bosniaques pour les nationalistes serbes.
Oui, parce que cet édifice a été construit à la fin du 19e siècle sous l'Empire austro-hongrois. Elle est cette bibliothèque d'architecture islamique. À l'époque, c'est pour pas froisser les élites musulmanes de la ville. Il faut imaginer un immense bâtiment qui mêle les styles ottomans et mauresques. C'est tout ça qu'ont détruit les milices serbes cette nuit-là de 1992. À la fois un bâtiment, mais aussi toutes ces archives historiques sur la Bosnie, y compris sur la Bosnie socialiste, donc qui racontait une histoire plurielle du pays. Quand il est question de reconstruire la bibliothèque, c'est l'ambassade d'Autriche qui supervise cette reconstruction. Pourquoi ? À la demande de qui ?
En effet, c'est l'État autrichien même qui a financé une grande partie, pas tout, parce que aussi la Commission européenne et l'État espagnol ont participé, mais du début, alors des années 90, c'était l'Autriche qui a pris l'initiative. On peut dire ce bâtiment qui, pour les Sarajeviens maintenant, à leur rôle d'un symbole, mais c'est un produit de la période autrichienne. Alors l'Autriche a occupé la Bosnie-Herzégovine de l'Empire ottoman et un grand programme de construire un nouveau quartier très européen, très inspiré par la Ringstrasse de Vienne a été achevé. Mais pour construire l'hôtel de ville, parce que ce bâtiment a été construit comme l'hôtel de ville de Sarajevo, c'était une architecture orientale. En effet, c'est un style pseudo-mauresque que des architectes qui venaient de la Tchéquie et après de la Croatie ont considéré que pour avoir le soutien des élites de la ville qui étaient des élites musulmanes, des élites bosniaques.
Oui, il fallait avoir ce style.
Ils font construire.
Oui, pardon. Monsieur Badescu, comme le temps file très vite et que j'ai encore plein de questions à vous poser pour parler plutôt de ces dernières années et notamment de la reconstruction à l'identique de ce bâtiment. Ça prendra 20 ans de chantier. Il se trouve que vous étiez présent le jour de l'inauguration en 2014. Est-ce que vous avez ressenti le même décalage que celui qu'a décrit Aline Kate lors de l'inauguration 10 ans plus tôt du nouveau pont, nouveau vieux pont de Mostar, des habitants de Sarajevo tenus à l'écart aussi de cette bibliothèque?
En effet, c'est impressionnant comme les histoires sont similaires parce qu'en effet, on était dehors avec la grande partie du public de Sarajevo qui regardait les cérémonies dehors sur un écran la Vieja Sala, la ex-bibliothèque, c'était les délégations diplomatiques et tout ça. Mais ce qui m'a frappé, c'était que tous les discours ont été présentés dans la langue originale qui était l'allemand, parce que ça venait de l'ambassade d'Autriche qui a organisé cet événement, sans les sous-titres, sans traduction. Et alors ça a créé beaucoup de blagues dans le public qui disait on peut voir que les Autrichiens nous parlent toujours comme l'empire. Alors c'est vraiment une façon, on peut dire, de relation coloniale entre les élites qui sont dedans et le peuple qui regarde sans comprendre en effet qu'est-ce que vient d'être dit.
Et qui n'y entre plus en plus dans cette bibliothèque, puisque ce n'est plus une bibliothèque, c'est une sorte d'espace vide conçu pour organiser des événements, des séminaires. Et pendant que le chantier qui a duré 20 ans s'éternisait, plein de bibliothèques ont été construites ailleurs dans la ville en parallèle. Donc cet endroit n'est plus l'endroit qu'il fut pour les Sarajeviens. Est-ce que cette disparition d'un au lieu du multiculturalisme à Sarajevo est à l'image d'un passé perdu à l'échelle de toute la ville, Gruia Badescu?
On peut dire que au niveau de récit, il y a beaucoup de gens au Sarajevo qui pense toujours, parle toujours du ville multiculturel. Mais au niveau des pratiques et de la des réalités démographiques, on peut voir que c'est, il y a une, c'est une ville qui, après la guerre, après la séparation, en effet de Sarajevo, la ville, la grande ville de Sarajevo, et une périphérie qui est devenue la ville de Sarajevo de l'Est, Istoto Sarajevo, qui est, fait partie de la entité de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Alors après tout ça, après la et l'arrivée des personnes déplacées de l'intérieur, on peut voir une majorité démographique bosniaque, mais qui n'est pas vraiment un groupe homogène. Il y a beaucoup de différences sociales, beaucoup de discriminations entre les personnes de les Sarajeviens de d'origine et les personnes qui sont arrivées. Alors on peut dire que c'est vraiment une ville maintenant où il y a une mixité, mais il y a une mixité plutôt sociale, mais sans vraiment avoir des pratiques sociales en commun.
Des pratiques sociales qui ne sont pas en commun. Alors, la population musulmane est majoritaire aujourd'hui, je crois, aux alentours de 80%, puisque la plupart des Serbes sont partis pendant et après le siège. Et les mosquées qui se construisent aujourd'hui, si j'ai bien compris, sont beaucoup financées par des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Malaisie. Enfin, voilà, on voit des espaces aussi qui jusque-là étaient communs, collectifs, qui se sont refermés. Peut-être juste pour conclure, Gruia Badescu, après la guerre, les accords de Dayton en 95 ont établi ce découpage administratif de la Bosnie en deux entités, la République serbe au nord, au sud, la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La ligne de séparation, non, le terme est mal choisi, mais la ligne frontière passe par Sarajevo. Comment est-ce qu'elle agit dans les esprits, mais aussi dans les déplacements, les échanges entre les habitants de la ville?
Alors la plupart de la ville avant la guerre reste toujours dans la Fédération, et c'est la capitale de la Fédération. Mais une banlieue qui s'appelle Lukavica est le noyau de nouveau Istoto Sarajevo, la ville de Sarajevo de l'Est. Et ça, c'est une ville où à peu près 70 000 habitants, la plupart sont des Serbes, habitent. Et c'était très intéressant pour moi de voir les années 2000 des projets urbanistiques pour recréer la centralité de l'autre côté. Alors pour recréer les mêmes fonctions, les mêmes places publiques pour faire en effet une séparation totale et que les gens qui vivent la côté serbe n'ont plus besoin d'aller dans la côté de la fédération. Mais en effet, les pratiques des gens, ils passent toujours, c'est là pour faire des achats, pour avoir toutes les activités culturelles. Alors cette frontière, on peut dire c'est une frontière très politisée, mais en effet, on prend des pratiques des gens, les gens la franchissent.
Merci beaucoup. Donc, dans la pratique, en effet, cette partie est devient à des allures de ville dortoir, comme vous dites dans vos travaux. Les habitants travaillent et consomment surtout à l'ouest. Merci beaucoup, Gruia Badescu, d'avoir été avec nous. Vous êtes chercheur en histoire au Zukunftskollege de l'Université de Constance. Aline Kateu, que ce soit à Mostar ou à Sarajevo, quelles questions aurait-il fallu se poser avant de reconstruire?
Alors, je sais pas si c'est une question qu'il aurait fallu se poser ou si c'est surtout un interlocuteur qu'il aurait fallu choisir correctement. Je pense que personne d'autre que les habitants, que les gens qui pratiquent ces espaces, qui s'en souviennent et qui peuvent en parler, auraient été à même de donner les réponses à la communauté internationale et notamment à l'Union européenne à Mostar, puisque on est passé de cette ville industrielle et ouvrière à cette ville de carte postale qui prive en fait les Mostariens de leur ville réelle.
Quel était le statut de Mostar avant la guerre et comment ce statut s'est-il transformé avant la violence? C'est la question que les habitants de Mostar vous disent qu'ils auraient bien aimé qu'elle eût été posée avant qu'on reconstruise. Merci beaucoup, Aline Kateu.
Merci, Julie Gacon. Merci de votre invitation.
On est très content de vous avoir reçu pour conclure cette série sur les reconstructions. Mostar, ceci n'est pas une ville. Votre livre a paru chez Actes Sud dans la nouvelle collection Les Routes de l'Après. Et vous avez aussi produit pour France Culture une série de documentaires sur l'après-guerre en Bosnie-Herzégovine. On met le lien sur la page de Culture Monde. Merci.
Merci.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Des cours d'eau dans l'Arctique ont pris une couleur très étrange, Catherine.
des os d'un orange vif dans la chaîne de montagnes Brooks en Alaska, une région sauvage de pics escarpés et de rivières normalement cristallines juste au nord du cercle polaire arctique. Mais cette nouvelle teinte orange défigure désormais le paysage, décrit le Financial Times. Ces rivières qui semblent rouillées sont même visibles depuis l'espace sur des images satellites que montre le Financial Times, des photos également relayées par The Anchorage Daily News, la revue Science et la NPR. Cette couleur orange-rouille provient du fer qui se dissout au contact de l'eau acide et dans le cas précis de la chaîne Brooks en Alaska, ce n'est pas l'exploitation minière qui est en cause, explique le Financial Times, mais le réchauffement climatique qui entraîne le dégel du pergélisol, cette couche de terre gelée en permanence, permafrost d'ailleurs en anglais. Avec ce dégel, le fer n'est pas le seul métal à être emporté par les eaux. Les concentrations de manganèse et de nickel augmentent dans certaines rivières dont la toxicité met la faune en danger, ajoute The Anchorage Daily News et la revue Science, risque majeur pour les poissons notamment, ce qui affecte forcément les communautés autochtones d'Alaska qui dépendent de la pêche traditionnelle, comme le note le média américain Mongabay, spécialisé dans l'actualité environnementale. Dans la chaîne de Brooks, les ombres arctiques des poissons d'eau douce ont disparu des rivières, désormais oranges, trop acides, déplore Jack Rickoff, qui vit dans la chaîne Brooks depuis plus de 60 ans, en autosuffisance, se nourrissant de chasse, de pêche et des légumes qui poussent dans son jardin, explique le Financial Times. Le pergélisol fond également en Norvège. Dans l'archipel du Svalbard, situé près du pôle Nord, les niveaux de manganèse et de nickel ont grimpé en flèche, indique le Financial Times et la NRK, la radio publique norvégienne. Depuis l'automne dernier, il est conseillé aux habitants de ne plus boire l'eau du robinet. Certains établissements, comme les écoles maternelles et l'université, ont même installé des filtres pour leur réseau d'eau potable, précise le Financial Times. Et puis, au Groenland, au lieu de glisser sur la neige et la glace, le traîneau de Christensen, un homme de 62 ans, rebondit sur la terre et les rochers, désignant les collines du doigt. Il raconte à PBS que c'est la première fois qu'il n'y avait ni neige ni glace dans la baie en janvier.
Et partout dans l'Arctique, la hausse des températures entraîne le dégel du pergélisol et des migrations forcées.
L'affaissement des bâtiments, la fissuration des canalisations rend presque inhabitable aujourd'hui le village autochtone de Nunapitchouk dans la toundra de l'Alaska. Terrain rendu instable par le dégel du pergélisol, vous le disiez, le peuple Yupik parle même de sable mouvant de l'Alaska, dans lesquels la maison d'Edna Chase s'enfonce chaque année, raconte PBS aux États-Unis. Cette femme de 60 ans doit pomper l'eau sous sa maison toutes les 15 minutes pour éviter les inondations.
Do you see the water? There's no more foundation.
Vous voyez l'eau, il n'y a plus de fondation, tout bouge. J'ai 3 étages dans ma maison, 2 sont sous l'eau et le dernier est constamment humide. Ça pue ici. Mon fils a dû commencer à utiliser un inhalateur, explique Edna Chase à la caméra de PBS. J'aimerais bien, dit encore cette femme, que les autorités à Washington viennent voir ça de leurs propres yeux, qu'elles sentent la puanteur, l'humidité dans ma maison, la moisissure verte et noire partout. Comment peut-on vivre avec ça? L'eau qui faisait partie du quotidien du village autochtone de Nunapitchouk en Alaska, servant aussi bien de lieu de pêche que de bain pour les enfants, est désormais une menace pour toutes les infrastructures de ce village, raconte PBS. Le seul moyen de se déplacer est de marcher sur des passerelles qui ont constamment besoin d'être réparées. Les habitants ont donc voté pour déménager vers des terres plus élevées, mais le projet prend du retard à cause de la bureaucratie, explique PBS, mais aussi à cause de l'administration de Trump, pour qui le réchauffement climatique et ses conséquences sont un canular, rappelle le Financial Times. Pourtant, le Nord se désagrège, confirme le journal canadien The Globe and Mail. Cette année a enregistré la plus faible étendue de banquise jamais observée depuis un demi-siècle, alerte encore la NPR.
Et avec le réchauffement climatique, l'Arctique lui-même devient une source de gaz à effet de serre.
Sachant que les réserves mondiales de pergélisol contiennent près de 2 milliards de tonnes de carbone, soit environ 45 fois les émissions de tous les pays pour l'année 2024, explique le Financial Times. Avec la hausse des températures, outre le dégel du pergélisol, les feux de forêt qui libèrent eux aussi du carbone sont de plus en plus fréquents. En 2024, la combinaison de ces feux de forêt et de la fonte du pergélisol dans la toundra arctique a entraîné, pour la première fois depuis des millénaires, des émissions de carbone supérieures meilleure à celle qu'elle a stockée, alerte le Financial Times. Selon des scientifiques, d'ici 2100, le pergélisol de surface, les 3-4 premiers mètres de sol gelé, aura quasiment disparu, ce qui devrait aggraver le réchauffement climatique et donc les incendies de forêt, les inondations, l'affaissement des sols dans les régions polaires, ce qui entraînera la fonte d'une plus grande partie du pergélisol. Bref, un cercle vicieux, vous l'aurez compris, à moins, espère PBS, que les États ne s'attaquent au problème du dérèglement climatique.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, dans Culture Monde, Mélanie Chalandon recevra d'abord pour le retour de terrain la journaliste Agnès Naba, qui revient du Mexique où elle a documenté les effets de la politique anti-immigration de Donald Trump pour Arte Reportage, et puis une table ronde consacrée aux tensions dans les relations franco-allemandes. Dans un instant, les Midis de Culture.